dans une classe de CE2B.
Et on fait un projet avec Campus FM.
Deux groupes ont travaillé là-dessus.
Mon équipe, c'est Claire, Agathe, Paul, Lydia,
Adeline,
Alice,
Andrea,
Margot,
Paul,
Mayenne,
Paulina,
Thomas
et Lumeya.
Aujourd'hui, on va sortir faire le tour du quartier des Carmes.
Venez les journalistes.
Nous sommes devant l'école Favre.
À la deuxième sortie.
C'était une école de garçons.
Autrefois.
Autrefois, oui. Ben, maintenant, c'est une école pour tous, du CP au CM2.
On va vous raconter l'histoire.
L'école de la Talbade fut créée en 1871
dans un ancien presbytère pour y loger provisoirement l'école.
Parce que la ville de Toulouse ne possédait aucun local où elle put l'installer.
Et ce provisoire a duré pendant 20 ans.
Et enfin, Monsieur Fried, brasseur dans la rue du pont de Tunis, acheta l'ancien presbytère contigu à sa brasserie et consentit à la louer à la ville.
Le prix Favre a 100 ans. Le 6 décembre 1886, mouraient à Toulouse Jean-Joseph et Marie-Catherine Favre, anciens carrossiers demeurant rue Constantine numéro 1. L'ouverture de son testament holographe en date du 26 août 1884 faisait connaître que le défunt léguait à perpétuité à la ville de Toulouse la somme de 40 000 francs afin d'instituer un prix qui précisait le testament devrait recevoir la dénomination prix Favre. Les conditions d'attribution du prix étaient ensuite indiquées. Le prix devait être donné au concours sous la surveillance des autorités académiques et municipales à l'élève le plus méritant des écoles laïques communales gratuites de Toulouse. Dans sa séance du 23 mai 1887, le conseil municipal de Toulouse exprime sa profonde gratitude pour le don magnifique de Joseph Fabre. Il décide d'accepter son legs, d'inscrire son nom dans les écoles de la ville ou de la donner à l'une d'elles afin que les enfants eux-mêmes et leurs parents gardent la mémoire d'un tel bienfaiteur.
Alors là, on a vu un panneau, rue Pharaon, ancienne carrière Ramon Alfaro. Le nom de cette rue vient de celui de Raymond Alfaro, petit-fils du comte Raymond VI. Carrière Pharaon ou Ramon Alfaro.
C'était du patois.
Là, on est devant une grande porte bleue. Il y a des poignées du Moyen-Âge. Et une sorte de... une créature à une queue de lion et un corps de lion.
C'est quoi ta question?
Bah déjà, si vous connaissez bien le quartier des Carmes et l'histoire.
L'histoire des Carmes?
Oui.
Non, pas vraiment. Ça fait pas longtemps que je travaille ici.
Et l'histoire Jean Calas?
Alors là, pas du tout.
Bouillou, qu'est-ce qui se passe?
On enregistre des sons.
Là, ça devient un petit peu calme, là. On travaille dans la restauration.
Passez bonne journée, au revoir.
On sera à manger le midi et le soir.
Voilà.
Au revoir.
Au revoir.
Nous sommes encore dans la rue Pharaon. Nous sommes très proches de la place des Carmes.
Nous sommes place des Carmes. La place des Carmes s'appelle comme ça parce que avant, il y avait un couvent qui s'appelait les Grandes Carmes. Il a été détruit pas longtemps après la Révolution française. Et on en a fait un marché métallique qui a été détruit. et après remplacé par notre marché parking actuel. Un moment, quand la place s'appelait Les Carmes, après elle a changé beaucoup de noms, jusqu'à ce que ça soit revenu Les Carmes.
Et ici, si on marche tout droit et on tourne à gauche, il y aura le métro des Carmes.
C'est la ligne B du métro.
Et c'est une des lignes parce qu'il y a la ligne A et la ligne B. Et elle a été faite en 2007.
Il y a beaucoup de magasins autour de ce quartier.
Oui. Et plutôt plus de restaurants.
Bonjour. Connaissez-vous des choses sur la place des Carmes ?
Oui, les fruits et légumes, les poissons, la viande, un peu tout.
On va aller dans un bar.
Bonjour.
Alors nous faisons un projet sur Radio Campus et nous faisons un reportage sur les Carmes. Et donc on voudrait vous interviewer.
Oui, sans problème.
Le marché des Carmes, comment vous le trouvez ?
Je trouve le marché très bien. Après, le parking qui est au-dessus, c'est un peu moins joli. Comme il a été classé, on ne peut pas le changer. Architecturalement, c'est unique, le parking. On tourne toujours dans le même sens pour monter et pour descendre. Ça a été le premier à être fait comme ça, apparemment, donc c'est classé. Mais sinon, le marché en lui-même est très bien. Il y a de très jolis commerces, des jolis produits. Après, peut-être s'il manquerait une chose, c'est que ce soit un peu plus festif, qu'il y ait un bar à vin, des choses comme ça à l'intérieur, comme on peut le voir dans notre marché, notamment à Victor Hugo.
Merci.
Voilà.
Nous sommes devant un café, un salon de thé. Alors on voit plein de bons gâteaux, en tout cas ils ont l'air bons.
Et juste devant nous, la rue Jouzeg.
Jout, ça veut dire juif et egg, ça veut dire eau. Et en fait, dans cette rue, il y a au numéro 4 un bâtiment. Dans ce bâtiment, en fait, dans la cour, il y a une fontaine. Elle existe depuis le Moyen Âge.
Artisan du monde.
Rue Jouzeg, numéro 1.
Et c'est ouvert.
Bonjour.
Bonjour les enfants. De quelle école que vous venez ?
L'école élémentaire Fabre.
Ah, c'est bien ça.
Et vous n'aurez pas d'autres chapeaux verts ?
Je vous fais un paquet cadeau aussi.
Un paquet cadeau aussi.
D'accord.
Bien, j'achète du café parce que c'est fait par les artisans du Pérou.
D'où viennent les jouets ?
Il y en a qui viennent d'Inde, il y en a qui viennent d'Asie. Ce sont des tout petits producteurs qui ont fabriqué des jouets avec leurs mains, avec le bois qu'ils ont trouvé sur place. Et ensuite, ils les vendent et ça leur permet de vivre mieux dans leur pays. Alors, nous sommes ici un magasin de commerce équitable. Il y a des jouets, certes, mais il y a aussi beaucoup d'autres articles. Par exemple, vous avez de la poterie, vous avez des bijoux, vous avez des sacs, vous avez des étoles, des écharpes. Et puis, il y a aussi un petit peu d'alimentaire. Tous ces produits viennent des pays du Sud, des pays défavorisés, des pays dans lesquels, bien souvent, les enfants travaillent et ne vont pas à l'école. Et donc, c'est pour lutter contre la pauvreté que nous avons ouvert ce magasin dans lequel nous vendons leurs produits parce que nous leur payons leurs produits le juste prix, c'est-à-dire un prix qui leur permet de vivre décemment de leur travail dans leur pays. Voilà, ce sont des petits producteurs, tous. Ils se regroupent ensemble, ils forment des petits ateliers. Tous ces petits ateliers se regroupent encore ensemble, cela forme des coopératives. Et ces coopératives vont passer des marchés avec notre centrale d'achat qui s'appelle Solidarmonde. Et Solidarmonde prend des commandes. Il paye 50% de la commande avant même que le produit soit fabriqué, pour que ces petits producteurs puissent acheter éventuellement des petits outils ou des petits matériaux qui vont leur permettre de fabriquer le produit. Et aussi, bien sûr, il n'y a pas de travail d'enfant. C'est-à-dire que les enfants vont aller à l'école.
Est-ce que vous êtes là depuis longtemps ?
Ah oui, oui, oui. Le magasin Artisan du Monde est là depuis 25 ans. Le mouvement Artisan du Monde, cette année, fête ses 40 ans. Artisan du Monde a été créé après cet hiver très, 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 très froid, où l'abbé Pierre était très, très en colère lorsqu'il a vu mourir des gens de faim, de froid. Il a dit, ça ne peut plus durer comme ça, il faut faire quelque chose. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il y a eu une grande mobilisation. Oui, nous avons des clients, oui, c'est un magasin qui travaille bien.
Au revoir.
Au revoir, merci beaucoup les enfants.
La rue des Filatiers s'appelle comme ça parce qu'avant, il y avait beaucoup de magasins où ils vendaient du tissu. Et ce sont des filatiers.
En fait, cette rue était la plus vieille rue de Toulouse. C'était une rue romaine.
Bonjour madame.
Bonjour.
Savez-vous pourquoi cette rue est pavée ?
Non.
Nous sommes devant la maison de Jean Calas.
Numéro 50.
Numéro 50, rue des Filatiers.
Il y a écrit monument historique, maison Calas.
Jean Calas a vécu une vie très 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 dure.
Connaissez-vous l'histoire de Jean Calas ?
De Jean Calas, bien sûr.
Voulez-vous nous faire un résumé ?
Jean Calas a été accusé d'hérésie et exécuté au 17e. D'ailleurs, Voltaire a pris sa défense. Très important. On a retrouvé son fils pendu, exactement, et on a accusé Jean Calas d'avoir assassiné son fils. Et ça a tourné en un procès contre les protestants. Et ce pauvre Jean Calas a servi de bouc émissaire. Voilà. Comment il a été exécuté, ça, je ne sais pas.
Je crois qu'il a été exécuté à la roue.
Très bon supplice de la roue.
Au revoir.
Au revoir.
Donc là, nous entrons dans le hall. Bonjour, monsieur Dupuis.
Là, c'était pour aller dans l'appartement de Jacques Calas. Le magasin, il va jusqu'au bout, là.
Oh, quand tu descends, c'est trop rigolo. Ils sont tout petits, les escaliers.
Et la porte où on a retrouvé le fils de Jacques Calas, c'est celle-là. Non fermé.
Alors, moi, j'ai remis la gravure qui résume un petit peu l'affaire Calas.
Ce tableau se retrouve dans le musée du Vieux-Toulouse, qui est pas loin.
Vous avez le fils Calas, Jean Calas, le capitoul Baudrigue, avec les curés qui sont derrière, et qui, avec son doigt accusateur, considère que Jean Calas est coupable. Il n'y a pas eu d'enquête de police, mais immédiatement, ils l'ont considéré comme coupable. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a un doute sur la culpabilité. Moi, je suis un nouvel habitant de la maison Calas depuis 5 ans. Et c'est vrai que je trouvais qu'on ne pouvait pas laisser les choses en l'état. J'ai monté une association qui s'appelle Jean Calas, l'Europe nous regarde, pour que ce lieu devienne un lieu de mémoire qui puisse ensuite être repris avec les universitaires pour développer tout ce qui s'est passé et expliquer un peu pourquoi il faut qu'on vive dans la tolérance et le respect des opinions de chacun.
Tout est resté pareil qu'avant.
Beaucoup de choses ont changé par rapport à ce que c'était à l'époque. Là-bas, il y avait une cour avec un puits. Et les différents propriétaires ont construit jusqu'au fond pour faire un grand magasin. Et là-bas, au fond, c'était les écuries. Et dessus, on a construit 3 étages.
Mais le marquage ici, c'était la porte avant,
oui,
ou pas ?
C'est derrière cette porte qu'on a découvert le cadavre de Marc-Antoine. Avec le père qui était là, qui... Vous savez qu'il s'était pendu. pour des raisons qu'on imagine aujourd'hui, puisqu'on n'a pas fait vraiment d'enquête policière sérieuse. Soit il y avait des dettes de jeu, puisqu'ils jouaient des jeux d'argent dans la rue, des 4 billards. À l'époque, on jouait au billard, c'était des jeux d'argent, comme aujourd'hui, on joue au PMU, on joue au poker. Soit il y avait peut-être une déception sentimentale. Et puis, ce soir-là, il y a son ami qui avait bien réussi, lui, il avait fait des études de commerce maritime, qui allait partir en Amérique, gagner bien sa vie. Marc-Antoine, qui aurait aimé être avocat, était au chômage. Il n'avait pas le droit d'exercer le métier d'avocat, puisqu'il était protestant. Et qu'à cette époque-là, quand tu étais protestant, tu n'avais aucun droit. Pour être avocat ou homme de justice, il fallait être catholique.
Mais aussi, il y a une autre façon pour qu'il s'est pendu.
Qu'il soit mort, plutôt, tu voudrais dire.
Oui.
On peut imaginer que quelqu'un l'ait tué, l'ait assassiné. Et on a accusé son père de l'avoir tué. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il a été condamné à mort. Parce qu'on a pensé, ils ont pensé, le Capitole Baudry a pensé que c'était lui qui avait tué son fils.
Parce que
comme il voulait vraiment devenir avocat, certains pensaient qu'il allait se reconvertir catholique. Et que son père n'aurait pas accepté cette décision qu'il aurait prise. Mais aujourd'hui, tous les historiens considèrent qu'aucun texte ne permet de dire ça.
L'ami qui était devenu avocat, c'est lui qui était passé manger,
par son ami Lavès.
Oui.
Il était venu, il était en partance pour Bordeaux, il n'avait pas eu de correspondance, il n'avait pas trouvé les chevaux pour y partir, donc il était resté chez son ami, ici à la rue des Filatiers, et il y avait passé la nuit. Et c'est à ce moment-là que le fils est descendu avant la fin du repas, personne ne l'a revu, et c'est qu'en descendant, qu'ils ont vu que cette porte-là était entrouverte, ils l'ont poussée, ils ont vu ce fils de Calas pendu. Il avait mis entre la porte une grande planche et il s'était pendu.
Il y avait quand même des témoins, par exemple, ils avaient un invité.
Oui.
Et ils disaient que c'était faux puisqu'il était avec Jean Calas. Donc c'était un peu un témoin.
Oui, vous savez qu'il y avait une bonne qui était catholique, obligatoirement catholique, dans une maison où il y avait des protestants. Et cette servante les connaissait depuis leur naissance. Et quand il a voulu descendre, Marc-Antoine, il y a trouvé une tête un peu bizarre, il a dit « Tu vas pas bien, viens près du feu, réchauffe-toi. »« Non, je suis bouillant », il répond. Et puis il a disparu, il est allé se prendre.
Accusé que le père.
T'as raison, parce que tous ceux qui étaient dans la maison auraient dû être accusés de la même façon. Ils auraient pu être complices, effectivement. C'est pour ça que la décision des juges a été contestée aujourd'hui, dans la mesure où il n'y a que Jean Calas qui a été condamné à mort et les autres ont été libérés.
Mais est-ce que c'est Marc-Antoine lui-même qui s'est fait pendre ou c'est quelqu'un d'autre qui l'a pendu?
Soit il s'est pendu lui-même, soit quelqu'un l'a étranglé. Parce que quand on l'a retrouvé allongé, la police, effectivement, a trouvé la strangulation. Donc, il n'était pas mort d'une mort naturelle. La famille Boulouaman a reconnu qu'il l'avait dépendu. Alors, la raison pour laquelle ils ont fait ça, c'est qu'à l'époque, la religion n'acceptait pas qu'on se suicide. C'était un meurtre contre soi-même. La sanction, c'était, on l'attachait derrière une charrette, face contre terre. On l'amenait jusqu'à une fosse commune, où on le jetait. Il n'y avait aucune cérémonie et c'était épouvantable comme sanction. Donc la famille, pour éviter ce déshonneur, l'a dépendu en disant que quelqu'un l'avait assassiné. Et donc très vite, elle dit « tu as menti, donc tu es coupable ».
Mais est-ce que le cadavre est encore là?
Non, non. Il y a eu une cérémonie religieuse à l'église Saint-Étienne. Mais on ne sait pas où se trouve le corps.
Qu'est-ce qui s'est passé quand Jean Calas il est allé... Là où on le condamnait.
Jean Calas, effectivement, a été arrêté, torturé pour qu'on le fasse avouer qu'il a effectivement tué son fils. Il n'a jamais avoué, disant qu'il était innocent. Les juges des Capitoles n'ont pas accepté cette version. Ils l'ont condamné à mort, après l'avoir torturé. Condamné à mort, c'est-à-dire ils l'ont mis sur la roue, place Saint-Georges. Ils lui ont cassé les bras, les jambes, la poitrine, pendant 2 heures. Ils faisaient en sorte qu'il ne mourait pas de ses blessures. Ensuite, ils l'ont étranglé et brûlé. Et jamais, jamais, il n'a avoué le crime qu'on voulait faire avouer. Il faut peut-être parler de Voltaire.
Pourquoi il a relevé l'enquête? C'était un peu trop tard que
que Jean Calas était déjà mort.
Mais quand il y a une erreur judiciaire, on fait en sorte de montrer que c'était une erreur judiciaire. Voltaire a appris l'exécution de Jean Calas quelques mois après. C'était un commerçant marseillais qui était de passage à Toulouse à ce moment-là, qui était un ami de Voltaire, et il est allé le retrouver à sa maison à Ferney, c'est la frontière suisse. Au départ, Voltaire a pensé que les protestants étaient effectivement peut-être coupables. Puis il a envoyé des enquêteurs sur Toulouse. Ils sont revenus pour dire non, ils sont vraiment innocents. À ce moment-là, Voltaire, qui était connu dans toute l'Europe comme philosophe, a écrit à tous les princes de Prusse, de Russie, un peu partout, pour qu'ils écrivent à Louis XV pour réhabiliter Jean Calas. Il a envoyé des cavaliers porter ses missives dans les différentes cours des princes d'Europe. Et puis il a écrit le traité sur la tolérance. Ce traité sur la tolérance, qui part de l'affaire Calas, qui est connu du monde entier, hein, est le point de départ de choses très importantes que vous étudierez certainement sur la proclamation des droits de l'homme et des lois de 1916 sur la laïcité qui font qu'aujourd'hui, les religions, dans leur ensemble, ne doivent pas gouverner les hommes. La religion est une affaire personnelle et doit rester personnelle. Elle ne doit pas être un lieu de pouvoir pour régler les problèmes pour ceux qui ne le sont pas de la même religion.
Voltaire, mais si c'était un écrivain, pourquoi il a fait une enquête? C'était pas un enquêteur.
Et il voulait être sûr que ce qu'il allait défendre était vraiment à défendre. Et il a voulu lui rendre honneur et se servir de cet exemple pour montrer que c'était inacceptable. C'était inacceptable. Du traité sur la tolérance que j'ai affiché sur le magasin, c'est quelqu'un d'aujourd'hui qui pouvait l'écrire. C'est toujours d'actualité, ça.
Les juges, ils étaient catholiques.
Oui.
Ma mère m'a raconté que peut-être que c'était parce qu'il y avait un juge qui n'aimait pas les protestants et qu'il voulait que Jean Calas se
dénonce. C'est ce qui s'est passé, effectivement. Ils ont profité de cette affaire-là pour agrandir le fossé qu'il y avait entre les catholiques et les protestants, pour considérer les protestants comme des criminels dans leur ensemble. Et ça a marché parce que Toulouse, à cette époque-là, était vraiment une ville très intolérante.
C'est Voltaire qui l'avait écrit, mais avant ou...
Là, c'est en 1761. L'exécution de Jean Calas, c'était en 62. Le traité sur la tolérance, il a écrit en 1763. Et Jean Calas a été réhabilité, c'est-à-dire rétabli dans son honneur, en 1765. C'est-à-dire que Louis XV a réuni son gouvernement pour dire que Jean Calas était effectivement innocent, qu'on l'a exécuté donc à tort, et il a destitué Baudrigue de sa fonction. Toulouse a été obligée d'accepter cette décision de Louis XV, mais ne l'a pas accompagnée. C'est pour ça que nous disons que Toulouse se doit aujourd'hui de faire des gestes plus symboliques par rapport à Jean Calas. Quand vous étudierez l'histoire, vous verrez qu'à partir de 1765, les choses vont évoluer différemment. On aura la Révolution française, on aura un certain nombre de règles qui vont être mises en place et ça ira jusqu'en 1905, les premières lois laïques. Voilà.
Au revoir.
Au revoir.
Merci beaucoup.
Avec plaisir. Vous êtes très gentil.
On arrive dans la rue des Paradoux.
Oui, c'est là où j'habite.
Toutes les portes.
Des porches.
En fait, là,
c'est un appartement.
C'est un balcon au premier étage.
C'est décoré. Bizarrement.
On voit des jambes, des bras, des pieds.
Un cou de girafe avec le bec d'un toucan. Il y a un indien. Il y a un loup.
Ce sont des gens un peu bizarres.
Ouais, un peu bizarres, très bizarres. Il y a une sorte de tableau. Il y a un visage qui fait une tête gentille, une tête colère, qui crie, qui tire la langue.
Moi, j'aime pas trop cette décoration.
Ça fait un peu peur.
Surtout là, cette tête de taureau avec le masque à côté, là.
On est dans la rue de la Daribago.
Il y a plein d'hôtels privés. On arrive devant l'hôtel de Pierre.
Cet hôtel, construit à partir de 1538 par Nicolas Bachelier pour le parlementaire Nicolas de Bagis, tire son nom de la façade de pierre que François de Clary y fait édifier au début du XVIIe siècle.
Sur la façade est très chargée parce qu'il y a des démons, des petites gargouilles, il y a aussi des fruits, il y a des poutres.
Et sur les portes, nous voyons deux lions comme s'ils gardaient cet hôtel.
Nous sommes près de l'église de la Dalbad. On voit des vitraux, très jolis d'ailleurs.
Et nous voyons aussi des gouttières qui sont pleines d'herbes.
Alors, comme par hasard, ces gouttières ne sont pas en gargouille. Cette église tire son nom de Blanche, latin Dea Bata, de la chaux qui recouvrait ce mur intérieur. Son clocher édifié par Nicolas Bachelier en 1551, reconstruit en 1881, s'effondra le 16 avril 1926. Alors là, on entre dans l'église de la Dalbad. Il y a de très jolis décors dedans, partout, partout. Voilà de l'orgue. Et nous revoilà à l'école. Rue Pierre Brunière.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Merci beaucoup.